La dernière fois, je vous rappelais comment Marie, dans son mystère de la visitation, devait nous aider à comprendre le sens de la prière liturgique chrétienne. C'est important pour nous de réfléchir sur ce que représente dans notre vie la prière liturgique. Alors, je n'aborde qu'un aspect, si vous voulez, parce que je voudrais aborder un autre aspect dans le cours de philosophie de l'art, sous un autre angle, vous comprenez bien. On me l'a déjà demandé, je le ferai sûrement, pour essayer de comprendre ce que représente le point de vue de l'art chrétien et dans l'art chrétien, ce que représente la liturgie. Parce que c'est un art. Ce que je dis ici maintenant, du moins ça peut être un art. Pas nécessairement. Mais ça peut être un art, ça peut être un véritable art chrétien et être donc quelque chose qui nous aide et qui forme toute une culture chrétienne. C'est évident que les cathédrales font partie de toute une culture chrétienne, le fruit d'une culture chrétienne. Et la liturgie doit former un milieu qui nous aide, qui doit nous aider. Je crois que toute communauté chrétienne implique une liturgie. Il y a une liturgie au niveau de la famille. Il faudra y penser. De fait, ce que nous allons voir, du reste, la liturgie chrétienne est familiale. Et puis, il y a une liturgie au niveau du peuple chrétien. Et les liturgies prennent des modalités différentes selon les différentes cultures humaines qu'elles transforment. J'ai déjà dit à certains cette parole du cardinal Tian Doum que j'avais rencontré sitôt le concile, que j'avais rencontré à Poissy, et après un repas en commun, il pouvait me poser des questions délicates, comme il fait. Il a dit, « Père, dites-moi un peu, y a-t-il une théologie africaine ?» Pendant le concile, j'ai toujours entendu ça. J'aimerais avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez. Parce que ça me tracasse. Alors, je lui ai répondu, « Écoutez, je vous réponds en tant que théologien. Je dis, il y a une théologie de l'Église. Mais je crois qu'il y a une liturgie africaine. Et je fais la différence entre les deux. Il y a une théologie de l'Église. Et au fond, la théologie, elle n'est pas plus française qu'italienne, qu'allemande. Elle est chrétienne. Alors évidemment, elle prend des modalités différentes parce que nous avons tous à donner notre note particulière, mais elle est au niveau de l'intelligence. Tandis que la liturgie, c'est l'expression. C'est l'expression. Et dès qu'on est du côté de l'expression, alors les cultures sont différentes. Du côté de l'intelligence, il y a des formes d'intelligence différentes, mais il y a quelquefois des formes d'intelligence différentes plus grande dans un même pays que dans des pays différents. Ouais, j'ai toujours remarqué ça avec mes étudiants de Fribourg, où j'avais de fait des nationalités très différentes. J'ai quelquefois remarqué, quand j'allais à Paris, que j'avais beaucoup plus de difficultés à faire entrer dans un cerveau d'un intellectuel parisien d'aujourd'hui, fine pointe du progrès, n'est-ce pas, faire comprendre ce que c'était que la métaphysique, que à quelqu'un qui était tout à fait d'une autre culture, mais rejoignait beaucoup plus facilement parce qu'il rejoignait l'homme. Et l'homme est le même. Alors, au point de vue profond, on rejoint le point de vue de l'homme. Mais la manière de s'exprimer, la manière, ce que représente la culture, elle est différente. Et alors, il est évident que là, il y a des liturgies différentes. C'est pour ça que chaque famille religieuse a sa liturgie propre. Et qu'on sait très bien qu'une communauté comme la communauté Saint-Jean cherche, je dis cherche, elle cherche beaucoup, elle cherche la sainteté, mais elle cherche aussi d'avoir sa liturgie propre. Et ça, ça ne tombe pas du ciel, hein. Saint-Esprit ne nous donne jamais ça du ciel en disant, voilà, il a fait ça pour l'arche de Noé, très bien, il a été architecte, n'est-ce pas? Et Dieu ferma la porte. Mais pour nous, ordinairement, Dieu nous demande de découvrir nous-mêmes ce que la grâce qu'il nous demande, de découvrir ce que représente une liturgie propre qui serait la liturgie de la communauté Saint-Jean, comme il y a la liturgie de Bethléem, et comme il y a les liturgies des diverses communautés qui peuvent exister, ou des renouveaux des communautés qui peuvent exister aujourd'hui. C'est bon de comparer pour mieux comprendre, pas de comparer pour opposer, mais de comparer pour mieux comprendre ce que représente la grâce de chacune des communautés. La liturgie du lion de Juda, parce que celle-là je peux en parler, la liturgie du lion de Juda, mais elle est différente de celle de la communauté de Saint-Jean. Elle n'est pas la même. Et je ne crois pas du tout que ça devrait être la même. La liturgie du Carmel, vous savez bien, c'est une liturgie très spéciale, très particulière. Sainte Thérèse le voulait, cela. Et on sent très bien quand les carmélites se mettent à loucher un peu sur les bénédictines pour attirer des gens, mais elles oublient leur vocation propre. On ne doit pas se servir de la liturgie pour attirer. On doit se servir de la liturgie pour glorifier Dieu et aider le prochain à prier. Ça oui, la liturgie doit aider le prochain à prier. Mais pas le séduire, vous comprenez bien, c'est pas du théâtre. Donc c'est pas le séduire, c'est pour aider le prochain à prier, le réveiller. Et puis tout ça pour glorifier Dieu. Alors, vous voyez bien, ce que je dis ici, c'est pas du tout un traité de théologie sur la liturgie, mais c'est essayer de découvrir l'esprit de la liturgie. C'est la chose première. Puis après, on peut regarder les autres choses, mais je ne le ferai pas le soir ici. Ici, mon souci, c'est avec vous de repenser dans le cœur de Marie les exigences de la vie monastique. Comment toute la vie monastique doit être, et je crois que c'est la grâce de l'Église d'aujourd'hui, et c'est sûrement la grâce pour la communauté Saint-Jean, à cause de la petite Marthe, qui, elle, avait senti ça avec une telle force qu'il fallait venir à la source, c'est-à-dire à Marie. Et au fond, c'était de cette manière-là qu'elle concevait les foyers de charité. C'était revenir à Marie, au-delà de l'aspect juridique, pour trouver la source première de la consécration à Dieu. Et donc voir comment Marie s'était totalement consacrée à Dieu. Il est bien évident que la vie monastique exprime un des fruits de la consécration de Marie. Et que si nous voulons être fidèles à la grâce qui a été donnée à la communauté Saint-Jean et qui est toujours donnée par la prière de Marthe qui est toujours là, il est bien évident que c'est ce retour au cœur de Marie, à cette consécration de la Très Sainte Vierge, qui doit nous aider à comprendre comment, dans la communauté Saint-Jean, nous devons vivre de cet esprit de la consécration totale à Dieu, consécration personnelle et communautaire. Consécration qui prend des éléments de la vie monastique en vue d'une vie apostolique, pour être dans notre monde d'aujourd'hui ce témoignage vivant de cet amour du Christ pour le Père, de cet amour du Christ comme grand prêtre, et de cet amour du Christ pour tous les hommes. C'est ce témoignage-là que nous devons donner. Et dans notre vie, il y a, c'est bien évident, la prière liturgique. La prière liturgique n'est pas nos moments d'oraison, n'est pas notre vie d'oraison. Je crois qu'on peut dire que notre vie doit être une vie d'oraison, parce qu'elle doit être une vie contemplative. Donc elle doit tendre de plus en plus à cette intériorité d'amour que Jésus nous donne par l'exercice divin des vertus théologales de foi, d'espérance et d'amour. Et la vie liturgique doit exprimer à l'extérieur, communautairement, parce que notre oraison, nous la faisons jamais communautairement. Nous pouvons la faire les uns à côté des autres, et c'est très bien, parce qu'on n'aime jamais autant son voisin que quand on fait oraison à côté de lui. C'est merveilleux. À ce moment-là, il est béni de Dieu, vous voyez, parce qu'il est sous la grâce de l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, toutes les petites difficultés de la vie commune disparaissent. C'est pour ça que c'est tellement important de faire oraison ensemble, parce que ça nous aide, après, dans le support mutuel, ça nous aide énormément quand on a prié un bon moment en silence l'un à côté de l'autre. C'est beaucoup plus facile après de supporter les gros défauts du voisin. Parce que pendant l'oraison, les défauts fondent. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est comme ça. Ça disparaît. Et parce que l'Esprit Saint prend possession du cœur de chacun d'entre nous. Et donc, il y a quelque chose qui s'allège. C'est vrai que la communauté n'est jamais aussi légère que dans l'oraison. Vous n'avez qu'à faire cette expérience. Hein. Et vous voyez bien que c'est quand on fait oraison ensemble qu'il y a une légèreté extraordinaire de la communauté. Tandis qu'au contraire, je ne dis pas qu'elle est lourde quand on mange ensemble, parce que là, on garde encore le silence, ça va, mais elle fait quelquefois plus lourde dans le travail manuel, quand on ne travaille pas avec suffisamment d'ardeur, ou dans les récréations, vous voyez bien. Alors, il faut que nous comprenions ce lien entre l'esprit d'oraison, ce que représente notre vie d'oraison, et ce que doit être l'esprit de la prière liturgique. Et je crois que le mystère de la visitation est pour nous, c'est pour ça que j'y reviens, est pour nous un lieu étonnant. C'est peut-être le lieu par excellence, avec la croix, parce qu'il y a aussi la croix. Et il ne faut pas que la visitation cache la croix, au contraire. Parce que la visitation est liée au grand mystère de l'Annonciation. Et le mystère de l'Annonciation, c'est pour nous le modèle des exigences de la vie contemplative. C'est à l'Annonciation que je comprends ce qu'est la contemplation chrétienne dans le cœur de Marie. Pour chacun d'entre nous, il y a une annonciation qui nous fait entrer dans la vie contemplative. Ça, il y a une mission particulière qui nous fait entrer dans ce que représente la vie contemplative. On doit en avoir un très grand désir, on doit se consacrer totalement à Dieu, avoir un très grand désir, et il y a un moment donné où le Seigneur, où Jésus, nous fait entrer plus profondément dans cette exigence de la vie contemplative et dans le silence de la vie contemplative. Et l'Annonciation reste pour nous le modèle. C'est vraiment à l'Annonciation que nous comprenons ce premier moment de la contemplation chrétienne. C'est Marie qui est notre modèle. Et elle est vraiment le modèle de ce silence intérieur où l'on porte le don que le Père nous fait de son Fils. Le Christ habite en nous par la foi. Et nous devons vivre de cette présence du Christ au plus intime de notre cœur, comme Marie en a vécu. Ce silence de la contemplation n'empêche rien de la générosité de la charité fraternelle et lié au message de l'ange qui demande à Marie si elle accepte d'être la mère de Dieu et lié le signe qui lui est donné. Élisabeth va enfanter, Élisabeth porte son fils, elle en est à son sixième mois, celle qu'on appelait la stérile. L'ange donne à Marie un signe, et Marie, dans sa prudence, reçoit ce signe, et ce signe lui permet l'exercice divin de la charité fraternelle auprès d'Élisabeth. Donc on peut dire que cet exemple que nous donne Marie au point de vue de la charité fraternelle jaillit de sa contemplation. La véritable charité fraternelle jaillit de la contemplation. Quand c'est une charité fraternelle toute divine, dont l'Esprit-Saint peut alors s'en servir. L'Esprit-Saint s'est servi de ce geste de Marie, de ce don de Marie, de ce service. C'est un service dans la charité fraternelle. Marie se met au service d'Élisabeth. Et c'est vraiment un acte de charité fraternelle qui s'enracine dans son silence contemplatif. Il ne peut pas y avoir de rivalité entre l'exigence de la contemplation et l'exigence de la charité fraternelle. C'est lorsque notre contemplation n'est plus suffisamment divine qu'elle peut être rivale de la charité fraternelle. Ou c'est quand notre charité fraternelle n'est plus suffisamment sous le souffle de l'Esprit Saint que cette charité fraternelle peut alors s'opposer à la contemplation. Dieu a voulu, et c'est ça l'aurore de la vie chrétienne, l'aurore de la nouvelle alliance, c'est dans le cœur de Marie, l'exigence de la contemplation, ce silence de Marie qui porte le secret du Père, qui porte son Fils bien-aimé, qui le porte dans sa foi, son espérance et son amour. Et Marie qui, dans sa prudence, reçoit le signe qui lui est donné par surcroît. Et je dis bien que c'est dans sa prudence. Les signes, nous les recevons dans la prudence, dans notre prudence éclairée par la foi, transformée par les dons du Saint-Esprit, par le don de conseil. Mais c'est la prudence qui reçoit les signes et qui sait les interpréter. Il faut encore savoir interpréter les signes. Parce qu'on peut les interpréter de multiples façons. Il faut les interpréter. Et c'est la prudence éclairée par la foi et éclairée par le don de conseil qui interprète les signes pour savoir si ce signe nous est donné pour que nous puissions exercer d'une manière plus divine notre charité fraternelle. Dieu aime que nous ayons des initiatives dans la charité fraternelle. Dieu nous donne un commandement, et c'est évident qu'il nous donne le commandement, mais il aime que nous-mêmes nous découvrions ceux qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre service, et que nous mettions entièrement à leur service. Marie s'est mise totalement au service d'Élisabeth. Elle l'a saluée. Elle qui a été saluée par le Père a salué Élisabeth. Donc, elle a laissé passer devant Élisabeth, puisque c'est ça, saluer quelqu'un. C'est le laisser passer devant. Marie se met au service, la petite Marie se met au service de sa vieille cousine Élisabeth dans cette charité fraternelle. Et Élisabeth est éclairée par l'Esprit Saint grâce à la charité fraternelle de Marie. Elle est éclairée par l'Esprit Saint pour comprendre cette chose inouïe que celle qui est la mère de son Sauveur vient au-devant d'elle et la laisse passer devant. Et c'est après cette sanctification d'Élisabeth et du petit Jean-Baptiste que nous voyons Marie chanter le Magnificat. Proclamer le Magnificat. Vous voyez bien le lien dans le cœur de Marie, l'exigence de la contemplation, la charité fraternelle et la prière liturgique. La prière liturgique ne jaillit pas directement de la contemplation. C'est très curieux cela. Il faudra nous demander si théologiquement on doit maintenir cet ordre. Je regarde ce qui est montré dans Saint Luc. Nous regarderons après dans Saint Jean. Mais nous voyons cet ordre. Et là, il y a un ordre de sagesse, je ne peux pas nier. Tout ce qui regarde Marie, tout ce qui regarde Jésus, implique un ordre de sagesse. Il n'y a pas de caprice. Aucun. Donc, c'est un ordre de sagesse qui nous est donné. Et si ça nous est donné, c'est pour que nous comprenions cet ordre de sagesse qui est inscrit dans le cœur de Marie et qui est inscrit comme l'aurore de la vie évangélique. Puisque c'est le premier moment de la contemplation chrétienne, c'est le premier moment de la charité chrétienne, et c'est bien le premier moment de la charité chrétienne, c'est porter au petit Jean-Baptiste, porter à Élisabeth, le trésor, Jésus. C'est bien ça la charité fraternelle. En s'effaçant pour laisser passer l'autre devant. Dans la charité fraternelle, on ne domine jamais. On est toujours au service de celui vers lequel on va. Et à partir de cette charité fraternelle réciproque, c'est ça qui est tellement, tellement fort, à partir de cette charité fraternelle réciproque, Marie, Élisabeth, il y a une réciprocité entre les deux. Marie, c'est le geste, et Élisabeth, c'est la parole. Vous voyez toujours ces réciprocités assez étonnantes, parce que Marie, c'est le geste, elle salue, elle vient de se déplacer, elle a fait des kilomètres pour Élisabeth. Ça fait partie de sa charité fraternelle. Je ne sais pas combien de temps elle a mis, mais c'est vrai, elle a mis tout ce long trajet pour se mettre au service d'Élisabeth. Sa charité fraternelle est remplie de ce trajet. Depuis tant de temps, je pense à toi et je vais vers toi. Et Élisabeth répond par cette lumière intérieure. Et cette lumière intérieure d'Élisabeth, elle provient du tressaillement du petit Jean-Baptiste. Alors elle poussa un grand cri et dit « Tu es bénie entre les femmes et bénie le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. » C'est une confidence, hein, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment la réciprocité dans la charité fraternelle. On est tellement frappé de cet amour qui nous est montré et de cette présence de l'Esprit Saint qu'immédiatement, il y a ouverture du cœur, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Voyez bien, Élisabeth ouvre tout grand son cœur à Marie. Première ouverture du cœur et du cœur profond, n'oubliez pas. C'est Élisabeth qui fait cela par rapport à Marie. Marie beaucoup plus jeune. Elle ne s'est pas demandé si Marie avait une expérience suffisante. Non, Marie beaucoup plus jeune. Je sais bien, quand elle est en face de la Sainte Vierge, l'ouverture du cœur, c'est assez facile. Hein. Et comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Alors vous avez tout ce qu'il faut pour une ouverture du cœur, là. Ce serait bien, comme théologie d'ouverture du cœur, de regarder ici Élisabeth. C'est d'autant plus beau, parce que quand c'est une vieille carcasse qui ouvre son cœur, c'est pas commode, hein. C'est plus difficile, beaucoup plus difficile. C'est Élisabeth qui était tout intimidée. C'est vrai, dans une situation anormale, la vieille Élisabeth. Donc c'est encore plus difficile. Alors vous avez, tu es bénie entre les femmes et bénie le fruit de ton sein. C'est merveilleux, premièrement, ça. La louange, elle est pleine de joie. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? L'étonnement. Car vois-tu, alors ça c'est très intime, hein, car vois-tu dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et de nouveau, c'est Marie. C'est très beau, ça. Charité fraternelle réciproque. Et le jaillissement, le fruit de cette charité fraternelle réciproque, c'est le Magnificat. Je crois que la prière liturgique jaillit de la charité fraternelle réciproque. Du reste, on le sait très bien. Vous savez, quand on n'a pas été exactement ce qu'il fallait au point de vue de la charité fraternelle, on loue beaucoup moins bien Dieu. Il suffit de regarder le chantre, on voit tout de suite s'il a fait un acte de charité fraternelle avant. Tout de suite, si son cœur est dilaté et s'il peut chanter. Parce que, vraiment, la charité fraternelle est source de cette prière liturgique. Alors, vous voyez, c'est ça qui est très important à noter, parce que ça me semble important à souligner. Il y a l'enracinement fondamental dans la contemplation. Sûrement. Il y a la charité fraternelle. Et la prière liturgique relève aussi de la vertu de religion. Alors il faut voir comment la vertu de religion est présente dans cette prière liturgique. Je vois très bien l'exigence des vertus théologales. Je vois très bien le point de vue de la charité fraternelle, et alors la vertu de religion va pouvoir s'épanouir pleinement et totalement. Sous l'action de l'Esprit Saint, le Magnificat, c'est sous l'action de l'Esprit Saint. Et la prière liturgique doit être normalement sous l'action de l'Esprit Saint. Nous devons demander à l'Esprit Saint de nous apprendre à louer, magnifier Dieu. Ça, c'est normal. Et c'est la vertu de religion qui va s'exercer divinement grâce au don de piété, et par le don de piété, et à travers ce climat spécial de la charité fraternelle qui va permettre un épanouissement très très particulier de la vertu de religion. Alors regardons, si vous voulez, puisque nous sommes là en présence du premier moment de la prière liturgique chrétienne, regardons ce qui nous est donné dans le Magnificat. Je crois qu'on peut dire que le Magnificat et la charte de la prière liturgique. Tout est présent dans la prière liturgique, au point de vue de l'esprit. Tout sera achevé dans la liturgie de la messe, liée à la croix. C'est pour ça que je dis, il faut toujours bien comprendre ces deux moments. Mais je crois qu'on peut dire que le Magnificat, c'est comme la charte de la prière liturgique, en tant que cette prière liturgique nous conduit à l'Eucharistie, et en tant que l'Eucharistie va tout reprendre d'une façon nouvelle. Mais le Magnificat montre comme l'achèvement de tous les psaumes. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. La prière liturgique du Magnificat, c'est l'âme qui exalte le Seigneur. Voyez l'attitude de la vertu de religion transformée par le don de piété, transformée par la charité. C'est l'âme. Parce que la présence de Jésus, la présence de Dieu, donne, la présence du Père, donne cette joie. Mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. C'est la première chose que nous devons regarder. La prière liturgique oriente notre âme et notre esprit. Le pneuma et la psyché. Alors là aussi, ce serait intéressant de voir les deux qui sont là présents. Ne disons pas que c'est seulement la psyché, c'est aussi l'esprit, pneuma. Les deux sont présents. Pour que la prière liturgique soit vraie, il faut que toute notre âme et tout notre esprit soient saisis par la présence de celui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Alors vous savez bien, c'est toujours très intéressant de bien préciser la différence du pneuma et de la psyché. L'âme s'est saisie tout ce qu'il y a de vital en nous. Alors on pourrait dire, vous voyez, que dans la prière liturgique, tout notre être d'être vivant est mobilisé. C'est ça la chose très étonnante de la prière liturgique. On est mobilisé pour Dieu. C'est pour ça que dans la prière liturgique, normalement, il y a une tenue qui fait partie de la prière liturgique. Dans l'oraison, on vous laisse tranquille, hein, et vous avez votre rythme à vous. C'est très vrai, je vous ai déjà dit, chez les trappistes, la première expérience que j'ai eue, c'était bien avant que les charismatiques nous donnent de la souplesse dans nos vertèbres, n'est-ce pas? Mais c'était bien avant, c'était les trappistes, après le chant, se mettaient par terre et priaient de cette manière-là. C'est vrai, dans l'oraison, on laisse chacun, et je crois qu'il faut laisser chacun. Le tout, c'est qu'il ne dérange pas son voisin, c'est-à-dire qu'il ne ronfle pas pendant raison, tu vois, parce que il dérangerait son voisin. Alors il ne faut pas ça. Le voisin serait là pour lui dire attention. Mais dans la prière liturgique, on est mobilisé dans notre corps. Nous n'avons pas à prendre n'importe quelle tenue. Ça, c'est très vrai. La prière liturgique, on est mobilisé pour Dieu. C'est mon âme exalte le Seigneur. L'âme, c'est nécessairement toute notre vie. Toute notre vie. On ne peut pas faire autre chose pendant la prière liturgique. Pas dans l'oraison non plus. Mais l'oraison, vous voyez, c'est plus intérieur. C'est quelque chose de beaucoup plus divin. Plus divin dans le sens que c'est plus intérieur. Là, on est mobilisé. C'est pour ça que le corps joue dans la prière liturgique. Parce qu'il y a une prière communautaire. Il y a comme une espèce d'incarnation qui doit se faire. Et il faut que notre corps exalte le Seigneur. Et il faut que notre esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. La prière liturgique doit être toujours joyeuse. Toujours. Un peu aérienne, vous voyez, pour être une vraie prière liturgique. Il faut qu'intérieurement soit comme ça, même si extérieurement ça ne l'est pas toujours, parce que quand on est fatigué, que les offices durent trop longtemps, pas pour nous, mais quand vous voyez de d'autres, dans d'autres endroits, quand ça dure très longtemps, on peut être fatigué, c'est sûr. Alors à ce moment-là, il y a des miséricordes extraordinaires de dire « asseyez-vous ». Mais ça ne fait plus prier, vous êtes plus mobilisé pendant ce temps-là, vous voyez. C'est les autres qui continuent, on se met un tout petit peu à l'écart, n'est-ce pas, pour ne pas gêner, on s'assied. Autrement, on est pris. Alors, quand tout le monde se met assis, ça va très bien. Mais normalement, c'est qu'on est mobilisé. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Pourquoi y a-t-il cette joie? Parce qu'il y a cette expérience actuelle de la miséricorde de Dieu. Et ceci, je crois, très important. Et ça, c'est en continuité, vous voyez, avec la charité fraternelle. Je crois que pour que la prière liturgique soit ce qu'elle doit être, c'est-à-dire cette prière qui prend notre esprit dans la joie, il faut que nous ayons l'expérience actuelle de la miséricorde de Jésus sur nous, de la miséricorde du Père sur nous. Quand il n'y a pas cette expérience actuelle, notre prière liturgique risque d'être un peu terne. Or, elle n'a pas le droit d'être terne. Une prière liturgique ne peut pas être terne. Ce ne serait plus une prière liturgique. Elle ne peut pas être terne. C'est absolument impossible. Elle peut avoir une note de discrétion, une note de jubilation. Ça, c'est très très vrai. Mais elle n'est pas terne. Parce que c'est toujours mon esprit tressaille de joie. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Ça me semble très important. Que nous soyons enveloppés de la miséricorde de Dieu. Quand nous sommes mobilisés pour la prière liturgique, on est enveloppés de la miséricorde. Et il faudrait que nous demandions à l'Esprit Saint de nous donner cette expérience quand nous chantons les louanges de Dieu, de sentir dans le sens de l'expérience divine qu'on est enveloppé de la miséricorde. On est enveloppé de la miséricorde du Christ, on est enveloppé du sang de l'agneau. Et c'est très vrai. C'est ça la miséricorde du Père sur nous. Elle passe à travers le cœur de Jésus. Et on est enveloppé. Vous voyez, si dans l'oraison, on doit être caché dans la blessure du cœur de l'agneau, dans la prière liturgique, on est enveloppé de la miséricorde et donc du sang de l'agneau. On est enveloppé parce que, justement, actuellement, on est regardé. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Il y a le regard actuel de Jésus sur nous. Il y a le regard actuel du Père. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Ceci est vrai de Marie, et c'est vrai de chacun d'entre nous. En Marie, nous pouvons et nous devons reconnaître. Toutes les générations me diront bienheureuse, car le Puissant, le Tout-Puissant, a fait pour moi de grandes choses. Nous devons vivre dans cette reconnaissance, dans cette action de grâce. C'est le fond de toute prière liturgique. Et pour ça, il faut comprendre que Dieu nous porte dans sa miséricorde et qu'il fait pour nous actuellement des choses merveilleuses. C'est vrai. Pour chacun d'entre nous. Alors certains jours, évidemment, on le sent un peu plus. le lendemain du diaconat, on le sent plus, le lendemain du sacerdoce, on le sent plus. Mais il faudrait que chaque jour, ce soit le lendemain du diaconat et du sacerdoce. Il faudrait que chaque jour, ce soit le lendemain de la prise d'habit. Hein? Premier magnificat après la prise d'habit. Vous avez senti quand même que votre habit était un signe de la miséricorde. Et alors quand on n'a pas encore, on l'aspire, n'est-ce pas? On est à côté de quelqu'un avec un habit, bientôt je l'aurai, bientôt. Et ce bientôt, il est tout proche, alors ça va arriver. Alors on est enveloppé, c'est je crois vivre de ce lendemain de la miséricorde, voyez? Pour être enveloppé de cette miséricorde d'amour, de ce sang de l'agneau. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Encore une fois, c'est surtout vrai pour Marie, mais nous sommes de la descendance de la femme. Et nous désirons l'être. Et nous désirons être vraiment de cette descendance. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a donné à Marie, nous désirons le recevoir de Marie. Marie, mère de toute grâce, donc médiatrice de toute grâce. Elle est médiatrice de toute grâce. Et donc, toutes les grâces que Dieu a fait, le Magnificat, c'est pour nous. Elle nous le médiatise, elle nous le donne, puisque c'est sa grâce qu'elle nous donne. Elle sait très bien que c'est sa grâce qui est la grâce la plus merveilleuse. Alors si elle est médiatrice de toute grâce, elle est donc médiatrice de cette grâce merveilleuse que Dieu lui donne, et donc de son amour pour le Père. Saint est son nom. Alors voilà le moment contemplatif à l'intérieur de l'action de grâce, de la louange. Il y a ce regard contemplatif. Saint est son nom. Il y a cette présence de la sainteté de Dieu pour nous. Saint est son nom. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Pour maintenir en nous cette miséricorde, pour que cette miséricorde soit toujours actuelle, pour que cette miséricorde soit toujours présente, il faut être dans cette attitude de pauvreté. Ceux qui le craignent, vous savez bien que le don de crainte qui fait de nous ceux qui craignent Dieu a comme fruit la pauvreté, la béatitude des pauvres. Et donc nous voyons bien ici le lien entre la miséricorde et la pauvreté. Et c'est pour demeurer dans cette miséricorde qu'il faut vivre de cette pauvreté. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, sur ceux qui vivent dans cette crainte aimante, dans cette crainte chaste de Dieu. Et quand on vit dans cette crainte chaste de Dieu, la crainte de celui qui ne veut pas l'offenser, de celui qui veut tout faire pour éviter de pécher, celui qui vit dans cette attitude-là, il vit dans la pauvreté. Parce qu'il sait très bien qu'il ne doit pas avoir d'initiatives qui viennent de lui. Parce que chaque fois qu'on a des initiatives qui viennent de nous, eh bien nous ne sommes pas au rythme de Dieu. Aussi éloignées les voies de Dieu, aussi éloigné le ciel de la terre, aussi éloigné les voies de Dieu des nôtres, aussi éloigné le ciel de la terre. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que le don de crainte nous maintient dans cette petitesse et cette pauvreté. Et c'est par là que la miséricorde de Dieu nous enveloppe. Vous voyez, chaque fois que nous manquons de pauvreté, la pauvreté, la miséricorde de Dieu ne nous enveloppe plus. C'est le grand moyen d'être enveloppé de la miséricorde, c'est d'être des pauvres qui ne cessent de mendier, qui ne cessent de réclamer, qui ne cessent de demander divinement. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Et alors ici, nous voyons le grand mystère de l'espérance. C'est cet aspect de conquête. Dieu se sert de nous et Dieu nous met dans son combat, au cœur de son combat. Et c'est cela qui doit nous donner la grande espérance. C'est que nous sommes dans une lutte, et dans une grande lutte. Et nous sommes au cœur de cette lutte. Mais si nous voulons nous donner totalement à Dieu, si nous voulons nous donner à Dieu par Marie, dans son cœur, nous savons que nous sommes au cœur de la lutte et que la lutte, elle durera jusqu'au bout. Qu'il n'y aura pas, il y aura des moments où on pourra être un petit peu plus paisible, mais la lutte durera. Et c'est pour ça qu'on a tellement besoin de revenir toujours au sens profond de la lutte. Vous voyez, au moment où Marie connaît la plus grande action de grâce, où Marie connaît la plus grande joie, où Marie est comblée de grâce à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain, c'est merveilleux pour Marie d'être source de sanctification pour Élisabeth et pour Jean-Baptiste. C'est une très très grande joie pour Marie d'être source de sanctification pour Élisabeth. Ça se touche. C'est comme quand Dieu se sert de nous pour aider quelqu'un et lui permet de faire que son cœur se convertisse. On est dans la joie. On a envie de chanter son Magnificat. On devrait peut-être le faire. Si on était charismatique, on le ferait tout de suite, n'est-ce pas? Et on dirait tout de suite l'Alléluia, immédiatement. Nous, quelquefois, on a un tout petit peu peur, on ne le dit pas. Mais aujourd'hui, un peu plus. On dit le Magnificat. Dès qu'on voit quelqu'un qui a été touché par la grâce, parce que Dieu s'est servi de nous comme instrument d'amour, c'est magnifique de voir ça. On comprend que c'est bouleversant pour le cœur de Marie. C'est bouleversant pour le cœur de Marie de voir cela, de voir la manière dont Élisabeth a tout saisi en un instant. C'est elle qui gardait le silence à l'égard de Joseph, l'Esprit Saint a tout dénoué dans le cœur d'Élisabeth. Alors, au moment où Marie connaît cette très grande joie, Marie regarde le grand combat. C'est là on voit ce que c'est de se reposer en Dieu. Se reposer en Dieu, ce n'est pas du tout, hein, arrêter le combat. C'est au contraire repartir avec un nouvel élan. Parce que nous sommes, tant que nous sommes sur la terre, nous sommes dans la lutte. Et Marie nous le montre à travers le Magnificat. Il y a une lutte qui continue. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Marie n'y pense plus, les hommes au cœur superbe. On voit très bien cette lutte dans laquelle se trouve Marie. Et tout ça annonce la croix, le Magnificat de la croix. Ce qui est le Magnificat de tous les mystères de Marie, vous savez bien. Ça a accompagné toute sa vie. Et donc il y a le Magnificat de la croix, comme il y a le Magnificat de la Visitation et le Magnificat de toute la vie cachée. Alors on voit très bien ici, il a déployé la force de son bras. Marie le dit par une expérience intérieure. Parce que nous ne pouvons comprendre la force du bras de Dieu que si nous sommes nous-mêmes pris de la même manière. C'est-à-dire si Dieu se sert de nous. Si nous devenons le bras de Dieu. Si Dieu se sert de nous et que nous devenons vraiment le bras de Dieu, sa force. Il a déployé la force. Cette petite Vierge Marie qui est si forte, qui est si forte, parce que justement, Dieu l'intègre dans ses combats. Dieu ne la met pas loin. Dieu la met au cœur de tous les combats. Comme Dieu prend tous les descendants de la femme pour les mettre au cœur du combat. Vous voyez, la prière liturgique implique, hein, faut pas l'oublier, c'est du reste on voit ça dans certains psaumes, hein, la prière liturgique implique une grande lutte. On voit surtout la louange, la reconnaissance, on oublie un peu ça, cette dimension de la prière liturgique. C'est l'Église qui loue, mais c'est l'Église qui lutte, parce qu'elle est portée par la miséricorde. C'est l'Église qui lutte, ce qui donne du reste un caractère particulier à la beauté liturgique. La beauté d'un combat, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a quelque chose de très viril, et qui doit être très viril. Vous savez bien ce que disait la grande Sainte Thérèse, hein, à propos de ses sœurs. Elle n'aimait pas beaucoup quand ça tombait dans de la vaseline. C'est vrai que c'était quelque chose qui était, alors vraiment, qui n'avait plus aucune force. Elle voulait qu'il y ait cette force. Et il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. C'est merveilleux de voir la Vierge Marie, dans la joie de son cœur, être au cœur de ce combat et d'être là qui montre justement quelle est la signification de ce combat et comment ce combat passe. C'est Marie qui est vraiment celle dont Dieu se sert pour ce combat. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. L'orgueil ne peut pas tenir, il doit disparaître. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Vous voyez l'espérance que nous avons dans tous les combats qu'on voit aujourd'hui, dans tous les combats de la fin du XXe siècle dans lesquels nous sommes engagés, comme la prière liturgique doit nous donner cette force. Il a rassasié de bien les affamés et renvoyer les riches les mains vides. Le discernement de l'action de Dieu sur les hommes. Il a porté secours à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, ainsi qu'il l'avait promis à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. C'est Marie qui porte tout le peuple d'Israël, tout le peuple d'Israël dans son cœur à ce moment-là. Ça fait partie de la prière liturgique. Nous prions pour nos frères, nous sommes mobilisés pour eux, nous sommes là pour eux, et nous les portons au Seigneur. Comme Marie a porté Israël, comme Marie a porté toute la descendance d'Abraham, et toute la descendance d'Abraham en Marie a chanté le Magnificat, comme en nous, toute l'humanité proclame Dieu, puisque nous sommes responsables de tous nos frères, et en nous toute l'humanité proclame Dieu et glorifie Dieu. Intercession du cœur douloureux et immaculé de Marie, vous bénisse et vous garde à jamais.
Amen.